おかしいおかしい。
Bonsoir. Assassinat de Laurent Désiré Kabila, la défense des condamnés réclame la réouverture du procès. L'un des avocats des condamnés dans cet assassinat, Maître Elie Lofele, qui est avec nous dans ce studio, l'a dit déjà à Radio Okapi, c'était en marge du 7e anniversaire de la mort de Laurent Désiré Kabila, commémoré le 16 janvier dernier. Une dizaine de condamnés dans ce procès, dont Eddie Capin, d'ancien chef de camp de Laurent Désiré Kabila, sont encore en prison à Makala, Kinshasa. Faut-il, oui ou non, reprendre le procès? Est-ce que les nouvelles institutions issues des élections sont-elles à même de reprendre ce procès? C'est notre thème de ce soir. Et pourquoi reprendre ce procès, s'interroge John Combi, auditeur de Bukavu. Pour lui, si les assassins de Laurent Désiré Kabila avaient été identifiés et jugés, qu'ils croupissent en prison pour avoir endeuillé la RDC. Depuis Gemena, dans la province de l'Équateur, Denis Lukanunu écrit ceci, je cite, « Le gouvernement doit organiser un procès équitable pour que justice soit faite une fois pour tous. » Nos invités de ce soir s'appellent Maître Elie Lofele, avocat, décondamné dans le procès pour assassinat de Laurent Désiré Kabila. Robin Minatou, député national du PPRD, il est vice-président du groupe parlementaire PPRD à l'Assemblée nationale. Jean-Claude Vouemba, également député national, membre de l'ORD, groupe de l'opposition politique. Voilà tout pour les invités. Merci à tous donc d'être branchés sur Radio Capi et bienvenue dans cette émission.
Vous voulez participer à l'émission? Envoyez vos SMS gratuitement de lundi à vendredi de 14h à 20h heure de Kinshasa au 099-8-999-222.
Assassinat de Laurent Désiré Kabila, la défense des condamnés réclame la réouverture du procès. Faut-il, oui ou non, rouvrir le procès? Le président de la ZADO, ONG de droits de l'homme, Amigo Gondé, soutient le point de vue des avocats des condamnés pour cet assassinat. Ce procès, selon Amigo Gondé, n'était pas terminé. On l'écoute au téléphone de Denis Diboko.
Rappelez-vous, lorsque le verdict était tourné, le ministère public de l'époque avait dit que les enquêtes devaient continuer. Et on ne sait pas, est-ce qu'on a continué les enquêtes ou non? Est-ce que les gens qui ont été condamnés sont-ils vraiment les personnes qui ont été impliquées dans cet assassinat? Il y a beaucoup de questions qu'on se pose autour de cette affaire. Et nous pensons que la réouverture de ce procès est extrêmement importante dans la mesure où, apparemment, ce sont des innocents qui sont en train de croupir à la prison, et il faut absolument que le peuple congolais aussi puisse connaître la vérité autour de cet assassinat de leur chef de l'État. On ne peut pas laisser une affaire comme ça dans l'impasse et puis bon, on continue la vie comme si rien n'était. Ce n'est pas bon, car les personnes qui sont en détention aujourd'hui, ce sont des gens qui doivent absolument bénéficier de leur voix, c'est-à-dire qu'on réouvre le procès pour que ces gens-là puissent présenter aussi leur moyen de défense et que nous puissions connaître la vérité.
Maître Léo Fené, puisque vous êtes avec nous dans ce studio, vous êtes, nous l'avons dit, hein, vous êtes l'un des avocats de ces condamnés pour assassinat de Laurent Désiré Kabila. Est-ce que vous continuez à soutenir que ce procès n'était pas terminé et il faut le rouvrir?
Oui, le procès n'était pas terminé pour le simple fait qu'il suffit de lire l'arrêt de la Cour. Lorsque la Cour a prononcé son arrêt, ils ont dit à la fin que le procès n'était pas terminé et que lorsque on aurait d'autres éléments, on peut toujours procéder à la réouverture du procès. Et puis, en plus de cela, vous conviendrez avec moi que le contexte du procès, le contexte de la commission d'enquête à l'époque, était un contexte où le Congo était presque sous tutelle. Le chef de l'État venait de mourir, mais nous étions sur l'assistance de l'Angola, du Zimbabwe, de la Namibie. Et nos services de renseignement, comme l'armée, étaient encadrés par ces gens-là. Et à cette époque-là, je crois que le gouvernement en place n'avait pas vraiment la liberté de laisser les choses se passer pour preuve. Lors de ma plaidoirie dans cette affaire, j'ai eu à recourir à un article publié dans le palmarès numéro 2119 du 30 avril 2001 Palmarès, qui était à l'époque vraiment un journal proche du pouvoir, qui avait dit ceci. Lorsqu'on attendait les conclusions de la commission d'enquête, le Palmarès disait ceci.
Oui.
Alors que tout était fin prêt, l'enquête sur l'assassinat de Laurent Désiré Kabila, une bombe qui nécessite des garde-fous, voici comment les conclusions de cette enquête se font attendre. Divergence de vues entre l'Angola et le Zimbabwe quant à la publication intégrale ou partielle des conclusions.
Là, vous citez le palmarès.
Je cite. Pour la SADC, ils exigent un regard avant la publication. Ça, je le cite avec des références. Mais le peuple congolais, qui n'est pas encore remis de son émotion, exige la vérité. Et effectivement...
Ça, c'est un commentaire.
Non. C'était à la une d'un article, parce qu'ils étaient quand même proches du pouvoir. C'est un journal proche du pouvoir, à l'époque. Donc, il y a eu des tractations avant que la commission d'enquête publie son rapport.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Je veux dire par là qu'à cette époque-là, le Congo n'assumait pas vraiment toute sa souveraineté, parce que quand nous étions en pleine guerre d'agression, c'est l'Angola, c'est le Zimbabwe et la Namibie qui encadraient l'armée, et dans ces circonstances de la mort du chef de l'État, ils n'ont pas voulu, puisque c'est eux qui ont commencé l'enquête, que toutes les conclusions soient publiées. Pour preuve, la date de l'assassinat du chef de l'État a posé des problèmes. Vous avez vu les divergences entre Sakombi et les autres. Alors que nous qui avons fait le procès, nous sommes arrivés à nous mettre d'accord que Kabila était déjà mort. Mais les gens proches du pouvoir ont dit qu'il n'était pas mort. On l'a amené en Zimbabwe.
Oui, mais
c'est là où il est mort.
Oui, mais maître Elie, en citant cette référence du journal Le Palmarès, est-ce que cela suffit pour dire que le procès n'était pas terminé?
Non.
Et qu'il était en fait sous influence, comme vous le dites, de la communauté internationale. Vous citez au moins les pays de la SADC.
Oui, mais cette référence-là est contenue dans ma plaidoirie. Et d'ailleurs, pour vous démontrer que le procès tel qu'il s'est passé, il n'était pas terminé, vous pouvez prendre facilement le rapport de la conclusion fait par le procureur général de l'époque, M. Kabinda Ngoï, lorsqu'il fait son rapport succinct, après que ceux qui nous donnaient l'aide nécessaire au moins vu, parcouru et ordonné ce qui pouvait être publié ou pas, il a dit ceci. Et j'ai utilisé ça dans ma plaidoirie. Le procureur Kabinda Ngoï a dit ceci. L'assassinat de Laurent Désiré Kabila a laissé entendre le président de la commission résulte d'un complot ourdi par les puissances étrangères, complot finalisé dans la capitale d'un pays voisin. L'enquête ayant des suites judiciaires, le procureur général s'est abstenu de citer les noms des personnes physiques, des pays et des organisations internationales ayant trompé dans cet assassinat, laissant la charge à la justice congolaise. Ça, je cite le rapport publié officiellement par le procureur général de la République de l'époque de M. Kabinda Ngoï, dans ma plaidoirie. Donc, voyez le contexte historique qui fait qu'aujourd'hui, nous avons fait les élections, on est plus ou moins libre et nous pouvons faire un vrai procès.
On va y arriver.
Oui.
On va y...
Donc, ce contexte-là, je cite quand même la personne, l'organe de poursuite,
voilà.
Le procureur général de la République, avant le procès, lorsqu'il a rendu à la population les résultats d'enquête.
On a suivi ça. Ouais, on a suivi maître Elie. On va y revenir d'abord, le temps de laisser Aubin Minaku réagir. Aubin, vous avez suivi maître Elie, qui cite évidemment le journal Le Palmarès. Il évoque aussi le verdict.
Je peux le dire. Le rapport de la commission d'enquête rendu par le procureur général de la République avant même qu'on commence le procès, parce que le procès était réalisé par une juridiction militaire.
Voilà. Oui. Votre réaction justement, est-ce que finalement pour vous, est-ce que ce procès il est déjà clos ou c'est vrai comme le dit Elie, il faut le terminer finalement?
Oui, je voudrais d'abord commencer par dire que il y a des considérations juridiques et puis des considérations subjectives dans cette affaire. Je viens d'entendre plusieurs éléments, plusieurs considérations subjectives. J'aimerais répondre à ces questions,
allez,
à ces considérations en deuxième lieu.
Oui.
Mais sur le plan juridique, et informons bien le peuple, s'il vous plaît, nous sommes dans un état de droit. C'est un état de droit, ce n'est pas une expression creuse. Un état de droit signifie notamment le respect des procédures. le respect des principes constitutionnels, le respect de certains principes fondamentaux inscrits par ailleurs dans la Charte internationale des droits de l'homme. Il y a notamment la présomption d'innocence, il y a notamment l'autorité de la chose jugée. Sur le plan juridique, il y a eu un procès. Et le procès pénal a été clos par des condamnations pénales.
Même si Maître Ray dit qu'il n'est pas terminé.
Je vais répondre. On va évoluer la dialectique.
Vous avez
la parole. La dialectique jaillit la lumière.
Vous avez
il y a eu un procès. Au terme de ce procès, nous avons connu des condamnations pénales. Et les prévenus sont tous aujourd'hui, en tant que condamnés, en train de purger leur peine. Et dans un état de droit, pour revoir un procès, il y a des mécanismes constitutionnels, il y a des mécanismes légaux consacrés par les codes de procédure, en l'occurrence la procédure pénale, que nous devons respecter. Donc il n'appartient pas à un quidam dans la rue, il n'appartient pas à n'importe qui de se réveiller un bon matin et dire non, on doit réouvrir le procès. Réouvrir le procès, mais sur base de quelles dispositions? Et lorsque j'entends dire que ce procès n'est pas terminé, je suis en train de me poser des questions sur le plan juridique. Parce qu'il y a eu condamnation pénale, c'est-à-dire à la servitude pénale principale, pour la plupart des inculpés. Il y a eu même des inculpés qui ont été relaxés, qui ont été libérés, faute de preuves. Aujourd'hui, comment dire que ce procès n'est pas terminé? Même si il s'avérait que le ministère public ait dit qu'il allait poursuivre les enquêtes, j'ai été magistrat du parquet de 90 à 97, nous avons milité ensemble en faveur de la protection des droits de l'homme, avec Maître notamment à partir de 90. Et ça signifie quoi? Le procureur général de la République, le ministère public, qui a le pouvoir d'investiguer à tout moment, peut, selon le pouvoir qui lui a été confié par la Constitution, peut mener des investigations chaque jour sur n'importe quel fait. Là, il n'y a pas de problème.
En mêlant même sur le même procès.
Sur le même procès, là où il y a eu des condamnations, non bis in idem. C'est-à-dire, on ne peut pas, pour les mêmes faits, avoir deux condamnations pour les mêmes faits. Mais si le procureur général de la République, si les magistrats du parquet constatent qu'il y a d'autres faits infractionnels à charge d'autres inculpés, congolais ou étrangers, un autre dossier peut être ouvert à charge de ces autres personnes, congolaises ou de nationalité étrangère. Mais cela ne signifie pas que le procès en question n'a pas été clos. Un procès pénal est clos par des condamnations. Tel est le cas pour ce procès. J'ai entendu dire, et c'est là que je dis que il faut bien informer le peuple, dire au peuple qu'ici, il est question des considérations juridiques, des considérations pénales, mais ne pas faire état notamment du fait qu'à l'époque, nous étions sous tutelle de l'Angola ou du Zimbabwe. C'est grave, surtout en ce 17 janvier, jour où un héros national a été assassiné à cause de la souveraineté du Congo.
Non, pour vous, il n'est pas question de parler de la tutelle de l'Angola, du Zimbabwe.
La RDC est un État souverain qui peut avoir des amis, et pendant cette guerre d'agression, il a été démontré clairement que certains amis africains, notamment de la SADC, ont aidé militairement la RDC.
C'était des amis et pas la tutelle.
Ce n'est pas la tutelle. Parce que la tutelle, c'est d'ailleurs un mécanisme juridique de droit international. La tutelle signifie que l'État n'est plus souverain. Ce n'est pas le cas. Donc, je crois que c'est trop fort que de dire qu'à l'époque, la RDC était sous tutelle étrangère. Et reprendre le procès. Bon, pour reprendre tout procès,
vous avez dit que
là, c'est fait selon les mécanismes bien établis par la Constitution et par la loi.
Voilà, donc on résume, Aubin Minakou, député national, mais également juriste, hein, tout le monde l'a reconnu, ou l'a senti même dans vos arguments. Donc pour vous, le procès est bel et bien clos, pas question de rouvrir ce procès parce qu'il y a une procédure à suivre. Et là, vous posez même la question et on va revenir justement vers Maître Hélène, je vois sourire, on va revenir vers vous pour justement donner sur base de quelle disposition faudra-t-il rouvrir ce procès, puisque nous avons aussi Jean-Claude Bouemba, député national, membre de l'opposition. Jean-Claude Bouemba, qu'est-ce que vous pouvez dire à ce niveau du débat? Jean-Claude Bouemba? Nous avons perdu Jean-Claude Bouemba, mais nous revenons tout de suite vers vous, Maître Hélène. Vous voulez justement que ce procès soit rouvert, mais il va être rouvert sur base de quelles dispositions, Maître Hélène?
Mon cher frère, je crois que M. Obeo Minaku est conscient de la pertinence de notre demande de rouverture de procès. Il a évoqué avoir milité avec nous dans le milieu des droits de l'homme. Je l'ai connu un bon magistrat, mais Obeo Minaku a transité par les services de renseignement. Au service, il a travaillé à l'inconseil spécial en matière de sécurité.
À
CNS. Et quand on va là-bas, parfois, vous savez, ce n'est plus la logique juridique qui prime. Et vous savez que quand on a été dans les services de renseignement, d'après ma connaissance en tant que pénaliste et avocat de la défense, on ne le quitte jamais. Parce que j'ai une expérience de procès devant la Cour de sécurité de l'État et devant les juridictions militaires, on nous répète toujours que quand on a été déjà agent dans les services de renseignement, on ne le quitte jamais.
Oui, mais quand il dit qu'il y a quand même une procédure pour rouvrir un procès, est-ce que même pour ça, c'est parce qu'on a été agent?
Non, parce que je voulais donner cette précision pour lui donner quand même une circonstance atténuante par rapport à son approche, parce qu'il y a des choses qu'il ne peut plus se permettre pour avoir travaillé dans les renseignements après avoir été un très bon magistrat.
Oui,
mais moi, je suis défenseur des droits de l'homme, je suis resté dans ce contexte-là.
Mais répondez à
la question de la révision du procès est contenue dans l'arrêt même de la Cour d'ordre militaire rendu par le général Nawele à l'époque. L'arrêt dit clairement ceci, que nous avons prononcé les peines, mais le procès n'est pas encore terminé. Lorsque nous aurons des éléments nouveaux, on peut toujours continuer ce procès. Ça veut dire quoi? Que lorsque nous faisons l'application de la loi dans le temps et dans l'espace, l'évolution du contexte, que mon ami et frère juriste Aubin reconnaisse ou pas, quand je parle de système, ça veut dire quoi? La souveraineté aussi, c'est la maîtrise de l'armée. À l'époque, au point de vue militaire.
La RDC, pour vous, à l'époque, vous n'avez pas la maîtrise de son armée.
Mais le commandement, c'est nous. Lorsque la RCD fait sa rébellion, nous avons une armée en formation avec les gars d'Ogo et la plupart des officiers qui sont venus avec l'ASDEL, qui étaient avec nos amis, notre vaillant commandant Laurent Désiré Kabila, sont rentrés avec les Roubaix-Rois, les Dizimakara et les autres.
Donc vous acceptez que la RDC était bel et bien...
Je vous dis, le commandement militaire, c'est un secret pour personne, d'ailleurs quand l'ASDEL est arrivé ici. Le chef d'état-major, c'était qui? C'était un Rwandais?
On voulait parler de James Kabarebe.
James Kabarebe! Et par la suite, quand on a chassé James, nous n'étions pas capables de faire face à l'arrivée du FCD. Ne nous volons pas la face.
Oui, mais
c'est l'Angola, le Zimbabwe et la Namibie qui assurent le commandement. C'est pour cela que je parle de tutelle entre guillemets et non tutelle autant qu'il doit international.
Oui, mais pour revenir à la disposition, répondez maintenant à la question, sur base de quelle disposition doit-on rouvrir le
procès? Donc, je parle du premier principe d'abord, l'arrêt de la Cour. L'arrêt donne la piste de rouvrir c'était déjà ouvert. L'arrêt est publié et quand vous allez maintenant au niveau de l'autre cour militaire qui conserve les archives de la cour d'ordre militaire, cette ouverture était déjà là. De deux, la question de l'amnistie. Après le procès, nous sommes allés à San Suu. Et à San Suu, on a signé l'accord global et inclusif, qui est un document de droit international très important, qui donnait entre autres objectif de la transition la réconciliation nationale.
Oui.
Et cette réconciliation nationale devait se faire...
Oui, rentrez dans le micro.
Cette réconciliation nationale devait se faire pour permettre aux Congolais d'aller de l'avant. Et la constitution de la transition vient parachever ma démarche. Lorsque vous prenez cette constitution de la transition,
il dit clairement que
le gouvernement de transition, dès la première législature, devait... Le président de la République devait proclamer une loi d'amnistie. provisoire en attendant que l'amnistie proprement dite soit proclamée par eux.
Oui.
On a pris une loi d'amnistie. Je vois le décret loi numéro 0301 du 13 avril 2003 oui. portant amnistie pour faits de guerre, infractions politiques et d'opinion. Et à notre avis, et à l'avis de plusieurs juristes, puisque j'ai même un article ici,
oui.
publié par un juriste de notoriété dans ce pays ici, un grand
juriste,
qui est d'ailleurs avec M. Aubert, maintenant actuellement là au PPRD, ou à l'aide du PPRD, M. le professeur Nyabiro, mm. le sens et la portée de l'amnistie présidentielle. Et dans cet article publié au potentiel, il démontre effectivement, avant il n'était pas encore parti au PPRD, c'est un grand pénaliste, mm. que l'assassinat du chef de l'État est une infraction politique par excellence.
C'est un autre débat, donc, évidemment.
Oui, mais c'est ça la base juridique.
Oui.
C'est ça la base juridique. Donc, sur base de tous ces éléments, que maintenant on a fait les élections,
oui.
que nous sommes plus ou moins libres, les Angolais sont partis, les Zimbabwéens, les Namibiens sont partis, et que nous avons maintenant déjà une conférence pour le Kivu là-bas.
Oui.
Nous voulons une la réconciliation nationale n'a pas eu lieu. Nous estimons que le moment est venu, soit d'appliquer l'amnistie du chef de l'État en considérant qu'il est condamné à mort
oui.
dans le procès de l'ordre Kabila.
Ça
c'est un procès, c'est une façon politique
oui.
et nos amis sortent. Soit alors, si les amis du PPRD et les autres qui ont refusé depuis la transition,
oui.
que l'on puisse se libérer et dire qu'à peine, Nono Lutula, Xavier Sirimwami,
Jean-Pierre
Frontière de Chibunga et tous ces Congolais-là qui sont là-bas à Goma ou dans les pays frontaliers. Alors, faisons maintenant la révision du procès avec des magistrats libres et je suis sûr que nous allons obtenir des acquittements.
Voilà,
on
va prendre Jean-Claude Wemba parce qu'on vient de le retrouver. Jean-Claude Wemba, député national de l'opposition. Jean-Claude Wemba, à ce niveau du débat, je pense que nous avons perdu, mais vous suivez, nous l'espérons. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce niveau sur faut-il lui ou non rouvrir le procès sur l'assassinat de Laurent Désiré Kabila?
Mais comme vous le savez, je suis un combattant de la liberté, de la démocratie, de la résistance et des droits de l'homme. Dès lors que les conditions n'étaient pas réunies, comme est en train de le dire notre pays, oui, tout simplement, la justice congolaise à l'époque et jusqu'à ce jour, ce n'est pas un instrument fiable. Ça, c'est de un. Et avec la pression, hein, toute la pression tant physique, morale et même physique, la justice de l'époque, on ne pouvait pas s'attendre à autre chose. Plus grave encore, le procureur de la République demande même après la sentence de cette justice que les enquêtes continuent pour éclairer la lanterne. Alors nous nous posons la question, est-ce que c'était une précipitation ou bien il fallait à tout prix condamner ce présumé assassin du président Laurent Désiré Kabila ou quoi? Moi je suis quelqu'un qui est contre la décentralisation de la fonction du chef de l'État. Donc nous ne pouvons pas accepter qu'on puisse tuer fut-il de la République. Mais il y a une chose, il y a une logique politique dans l'affaire.
Oui.
Doit dire que toutes les conditions étaient réunies pour qu'une justice soit. Là, vous pouvez le demander à tout le mortel congolais, ils vous diront que non, parce qu'à l'époque, c'était une époque que le Congo se cherchait, la pression, des occupations et tout cela. C'est pour cela, moi, je crois qu'en un mot, on peut dire ceci.
Oui.
D'ailleurs, que Maître Hélène veuille bien m'en excuser, moi, je préférerais mieux qu'après l'installation du Conseil supérieur de la magistrature, dès lors qu'il y aura des organes nouvelles, sincères et professionnels, que ce procès puisse être réouvert tout simplement pour que le Congolais puisse connaître la vérité.
Oui.
Parce que
oui.
je suis d'accord que le collègue, l'honorable Mina Courbet puisse garder ses thèses, mais lui-même, comme moi, comme dit le Congolais, qui ou des assassins en col blanc, sur cette affaire du président Laurent Désiré Kabila, disent aisément que ce soit en Congo, que ce soit à l'extérieur du pays.
Non,
donc c'est pour cela que je parle de lui. Du point de vue politique et même du point de vue sincère,
oui.
ce peut être réouverte, mais dans des conditions où la justice sera libre de dire le droit.
Merci Jean-Claude Wemba. Vous allez réagir, Aubin, pour placer un mot, parce qu'on doit passer à la deuxième partie de cette émission, mais d'abord, Aubin, vous allez réagir rapidement.
Oui, merci beaucoup. Je crois que vous avez bien posé la question. Sous le plan juridique, quels sont les éléments qui permettent une réouverture du procès?
Oui.
La réponse que nous avons tous entendue est pleine d'amalgame.
Donc vous voulez parler de la réponse de Maître Elaye?
Oui, est pleine d'amalgame, parce que je reprends ce qui suit concernant le procureur, le parquet. Dans tout procès pénal, c'est clôture par une condamnation à la servitude pénale principale ou à un acquittement.
Ce qui a été fait, donc.
Ce qui a été fait. Mais malgré cette condamnation, le ministère public, c'est l'organe chargé d'investiguer, de poursuivre et d'attraire les infracteurs devant le juge. Donc si aujourd'hui, au parquet général de la République, devant n'importe quel parquet, l'on a des faits à charge de tel ou tel individu, le parquet peut instruire. Donc il n'y a pas de contrariété sur le plan juridique.
Donc pour vous, ça n'a rien à voir.
Mais cela ne doit pas nous amener à dire que ce procès n'a pas été clos. Pas du tout. Je crois que c'est pas bien informé la population.
Même si le général Naouele, procureur de l'époque, a dit que
la question... Président de la cour à l'époque.
Le président de la cour à l'époque.
Parce que je n'ai pas lu ça, et vraiment, en tant que juriste, je suis en train de sourire. Même si c'est inscrit dans l'arrêt que les investigations se poursuivent, mais cela n'élude pas la condamnation prononcée.
Donc, du moment que la condamnation prononcée...
Il doit poursuivre les investigations. C'est l'organe du ministère public.
Voilà. Revenez quand même dans le micro.
Il doit poursuivre les investigations. C'est le ministère public qui a cette charge. Donc, quand on donne cette explication à la population, elle va comprendre qu'il y a d'une part le parquet, magistrat debout, et d'autre part, les magistrats assis. Il ne faut pas qu'il y ait amalgame entre ceux-là.
Oui.
On est revenu sur la souveraineté, l'amnistie, par exemple.
Oui.
Mais l'amnistie n'exclut pas la condamnation des infracteurs. Je vous donne un exemple. En matière de génocide ou d'apartheid, c'est des crimes internationaux qui ont comme caractéristique fondamentale leur imprescriptibilité.
C'est-à-dire,
ça signifie que quand vous avez commis un crime international, vous devez être poursuivi, quel que soit le temps, même s'il y a réconciliation sous le plan politique, mais tellement c'est grave, vous devez être poursuivi. Donc, évoquer l'argument amnistie n'est pas suffisant, parce que l'amnistie n'exclut pas la répression des infractions graves.
Merci Aubin. Assassinat de Laurent Désiré Kabila, la défense des condamnés réclame la réouverture du procès. Est-ce que les nouvelles institutions issues des élections sont-elles à même de reprendre ce procès? Le débat sur cette question, c'est dans la deuxième partie de cette émission.
Vous voulez participer à l'émission? Envoyez vos SMS gratuitement de lundi à vendredi de 14h à 20h heure de Kinshasa au 099-8-999-222.
Alors, Maître Elaye Lofele, vous continuez justement à plaider pour la rouverture de ce procès, mais finalement, ça va se rouvrir comment?
Suite à ce travail que nous sommes en train de faire en tant qu'avocat de la défense. Nous rappelons ceci. Avant d'arriver au procès, il y a eu une commission d'enquête. Est-ce que vous savez que toutes les personnes qui ont été arrêtées lors de l'instruction préliminaire, même le lieutenant Georges Mirindi, présent, qui est actuellement colonel là-bas à Goma ou je ne sais pas quoi dans les brigades là, qui a été présenté par le colonel Alamba, le procureur ministère de l'époque, comme le planificateur du meurtre du chef de l'État. Le lieutenant Chibunga Fraterne, dont j'étais l'avocat de la femme. Je prends encore le commandant John Bach. Cette personne l'a arrêté au GLM. Curieusement, les services de renseignement se sont arrangés pour les faire évader. Et ces gens-là sont partis. Pire, monsieur Mota, le professeur Mota, de la faculté des sciences économiques de l'Université de Lubumbashi, qui a été le cerveau moteur du procès pour dire que c'est lui qui avait vu la personne qui avait tiré sur le chef de l'État. Curieusement, il n'a jamais été inculpé.
Approchez-vous du micro.
Il n'a jamais été inculpé. Et lors du procès, il a été présenté comme témoin. Et aux informations que nous avons ici, il est pris même au pays, et à la fin, on prend des innocents. Les Dick Appel, les Nono Lusula, les Leta Mangasa, et les jeunes du Sud Kivu, qui lors de l'audience ont pleuré, qui étaient des gardes-corps, dont leur chef était le capitaine Itongwa. Ils ont accompagné le roi d'Israël Kabila depuis plusieurs années, ils étaient des fidèles et des fidèles. Et voilà, à la fin, on leur avait promis que quand ils arriveraient à Kinshasa, on les aiderait à aller poursuivre leurs études, où on va les installer. À la fin, ce sont les grosses légumes qui tuent le roi d'Israël Kabila. Et beaucoup se retrouvent dans les institutions après la mort de Laurent Désiré Kabila, mais ces jeunes gens-là sont condamnés à mort. Vous trouvez ça normal? Et maintenant que nous disons que les esprits se sont apaisés, les tuteurs zimbabwéens, Namibiens et Angolais qui se disputaient quelle partie du rapport de la commission d'enquête est présentée ou pas, sont partis. Nous, la réconciliation n'étant pas achevée, mais quand même on a fait des élections. Il y a eu une dynamique. Je pense que le moment est donné. Nous, en tant qu'avocats de la défense, nous, en tant que défenseurs des droits de l'homme, et conformément aux normes internationales des droits de l'homme, qui protègent les condamnés à mort, qui ont été édités par les Nations Unies, je vous fais grâce.
On peut
en discuter. Oui. J'estime que le moment est venu pour que Eddie Capen, Lulula et les autres puissent aussi se mettre dans la compétition des élections, être libres et s'occuper de leur famille et s'occuper de la gestion de leur pays, participer.
Mais qui doit le faire? Est-ce que vous attendez maintenant du président de la République ou vous attendez de la Cour?
Vous savez, le dossier est très complexe. Pourquoi? Le président de la République a fait son travail. Lorsque vous prenez les dispositions constitutionnelles de la transition, on lui demande de prendre un décret loi d'amnistie pour les infractions politiques, le fait de guerre et le fait d'opinion. Le document est ici. L'Assemblée nationale a voté sa loi, mais dans la pratique, qui doit pratiquer? Le pouvoir judiciaire qui est malade. Je pense que le pouvoir judiciaire congolais doit appliquer. Et le président Laurent Désiré, le président Joseph Kabila est dans une situation complexe. Vous savez pourquoi?
Oui.
Non seulement les condamnés à mort ont droit à la grâce conformément aux normes internationales des droits de l'homme, mais nous sommes dans une situation complexe où il est le fils du défunt chef de l'État.
Donc vous voulez
s'il agit, non, moi je le comprends. S'il agit, aujourd'hui, par mesure de grâce, nous pouvons lui écrire que j'amnistie ces gens-là, même si dans le fond, ils n'ont pas commis des faits infractionnels, pour le besoin de la réconciliation nationale, pour le besoin de la vérité. Les gens connaissent cette vérité.
Bon,
mais s'il le fait, il y a la pression du PPRD. Il y a la pression de ses parents paternels, Bakat. Et tous les amis de Laurent Désiré Kabila, ils vont dire, voilà, il est inadmissible que le fils puisse amnistier des gens qui auraient tué son père. Alors qu'en vérité, au point de vue juridique, nous avons des éléments que ce ne sont pas ces gens-là qui ont tué Laurent Désiré Kabila. D'où la meilleure façon de faire les choses, c'est qu'aujourd'hui qu'on fasse un nouveau procès public avec tous les éléments que nous avons. Avec les magistrats libres, je vous le dis, il y aura l'acquittement, puisque l'ouverture était déjà donnée par l'arrêt de la Cour d'ordre militaire. Donc, le procès n'était pas terminé.
Voilà, donc maître, on vous comprend, donc pour vous, il revient à la justice de pouvoir rouvrir ce procès, parce que pour vous, le président...
Rouvrir ou appliquer les décrets du chef de l'État.
Mais c'est du moins à la justice.
Oui.
Voilà. Romain Minako, est-ce que c'est bien à la justice de jouer?
Merci beaucoup.
Ou sinon, il a déjà joué. C'est à vous de répondre.
Évitons les insinuations parfois dangereuses. On est parti de la tutelle, du déficit de souveraineté. L'on a cité des États voisins qui pourtant jouaient un rôle important pour nous aider à lutter contre l'agression. L'on fait dire à Mota des choses. Moi, je crois que ça n'avance à rien. Le débat devait être axé sur les voies et moyens juridiques afin de réouvrir le procès. Et je dis que même si dans l'arrêt de la Cour d'ordre militaire, il a été dit qu'on poursuit les enquêtes, les condamnations qui sont portées par cet arrêt sont de mise. Et la poursuite des investigations, c'est le droit commun.
C'est
le parquet peut le faire à tout moment. Alors je me rends compte qu'on est en train de faire un lobbying extra-juridique, il faut l'accepter.
Non,
les mêmes politiciens. Les mêmes politiciens. Lorsque l'on fait un lobby, l'on fait des déclarations, l'on a été avocat, l'on a ses notes de plaidoirie, et que l'on commence par incriminer des États voisins, l'on commence par dire que l'État n'est pas souverain,
Donc, en soi, vous voulez dire qu'il y a changement des circonstances, et donc, aujourd'hui, il faut un nouveau procès. Mais sur base de quel pied juridique? Voilà. Vous n'avez pas encore répondu à cette question.
Voilà.
Je crois, oui. Concernant l'infraction politique,
oui.
S'il vous plaît, parce qu'on a évoqué...
C'est un débat ouvert.
Parce qu'on a évoqué, l'amnistie,
oui.
S'il vous plaît. Même si vous prenez l'évolution de ce concept en France,
oui.
C'est anti-exact.
Oui, vous allez nous donner le débat des juristes.
Vous imaginez, parce que vous êtes chef de l'État, quelqu'un a planifié votre décès, hein? C'est ça l'assassinat. Tuer quelqu'un après une préméditation, avoir préparé le meurtre. Et ce chef de l'État a une famille. L'infraction est bien définie par le code pénal congolais libre 2.
Oui.
C'est une infraction de droit commun.
Donc,
le fait que la victime soit chef de l'État, cela peut conduire à une implication, à certaines implications politiques.
Oui, pour simplifier les choses,
peux citer les cas de plusieurs hommes politiques.
Oui.
Le meurtre de Jaurès, le socialiste, en France. L'attentat contre De Gaulle en 62, par le petit Clamart.
En résumé, c'est pour dire
le meurtre du député belge, André Cole. Toutes ces infractions-là, qu'on pourrait qualifier de politiques, ont été réprimées sur le plan pénal.
Donc, en résumé, ça veut dire que ceux qui commettent ces attentats ne peuvent pas bénéficier de l'amnistie. C'est ça que ça veut dire.
Pardon?
Ça dit que ceux qui commettent ce genre de crimes donc ne peuvent pas bénéficier de l'amnistie.
C'est défini, hein. L'amnistie est définie par le texte juridique générateur.
Oui. Pour qu'on défende, parce qu'on est monté trop haut dans le débat, c'est surtout à l'intention de nos auditeurs.
Merci.
Mais au même coup, il y a quand même un auditeur qui a écrit, il s'agit de Anthony Kikoufi, c'est un avocat, maître Anthony Kikoufi. Il écrit depuis la Belgique. Lui, il dit ceci, je vais citer rapidement, même si c'est une longue réaction. Beaucoup de condamnés du procès Laurent Désiré Kabila devraient poursuivre l'État congolais en justice pour erreur judiciaire. Comment, par exemple, s'interroge-t-il, a-t-on condamné Edi Kaplan à mort alors que le mardi 16 janvier 2001, jour du crime, il était avec Moïse Kongolo, l'ancien ministre de Justice et de l'Intérieur sous Laurent Désiré Kabila, et pour référence, il renvoie au livre de Moïse Kongolo, qui dit, livre intitulé « Laurent Désiré Kabila, ma part de vérité, témoignage pour l'histoire ». Qu'est-ce que vous pouvez répondre un peu, réagir un peu à cette opinion-là?
Je dirais qu'aujourd'hui, il y a une vérité judiciaire dans l'affaire. Et la vérité judiciaire n'est pas toujours nécessairement vérité ontologique. Dans tout pays au monde, on a connu des erreurs judiciaires. Pour le cas d'espèce, on n'a pas démontré qu'il y a eu erreur judiciaire. Une simple lettre d'un compatriote vivant en Belgique, citant un livre écrit par un autre compatriote, ce n'est pas une preuve suffisante pour prouver qu'il y a eu erreur judiciaire.
Voilà. On va, puisque vous avez parlé de la justice, ici, Maître Ney a dit que la justice ne faisait pas bien son travail, même, on a suivi aussi Jean-Claude Wemba qui est avec nous dans ce débat, il a parlé aussi de la justice. Nous allons d'abord suivre ce que Floribert Chebeya de la voix de Sans Voix dit à propos de la justice. Il dit qu'il y a des choses à corriger au niveau de la justice congolaise.
Si nous déroulons l'histoire de notre pays, la République démocratique du Congo, sous différents régimes, notamment pendant la transition, et le gouvernement 1+4 ne démontre pas suffisamment. Donc il s'agit plus d'un problème de manque de volonté politique qui ne permettra pas à la République démocratique du Congo de devenir finalement un état de droit pour favoriser la réconciliation nationale et le développement du pays. On a fait le diagnostic de la justice congolaise. Il y a plusieurs problèmes qui minent la justice congolaise. Il y a des problèmes d'ordre technique. Il y a des problèmes de capacités opérationnelles, de formation, mais plus, les problèmes les plus importants, c'est l'existence d'une volonté politique qui n'est pas favorable à l'indépendance de la justice qui pourra s'intéresser justement à tous les crimes qui ont été commis en République démocratique du Congo et dans lesquels bon nombre de dirigeants politiques au sommet de l'État sont impliqués.
Voilà, sur la même justice, Maître Joseph Mukendi, conseiller politique d'Étienne Tshisekedi, pense que réhabiliter la justice congolaise dépend de la politique générale du pays. On l'écoute.
à la justice congolaise, c'est à l'image du Congo. Et pour améliorer la justice congolaise, il faut l'améliorer. Il faut améliorer la politique générale, le respect des droits de l'homme, la lutte contre la corruption, ainsi que la transparence dans la gestion. Ces problèmes-là ne sont spécifiques à la magistrature. Ce sont des problèmes de tout le pays. Donc, nous devons croire à notre justice comme nous croyons à nous-mêmes, à notre destin. Et je crois qu'il nous appartient à nous, les Congolais, de relever les défis que nous avons, aussi bien dans la justice que dans l'ensemble de notre pays, pour le problème de paix, pour le problème de développement, pour le problème de croissance, pour le problème de démocratie.
Oui, pour mettre fin justement à tout ce débat que nous avons aujourd'hui avec ces réactions et peut-être empêcher que Maître Elie Lofele ne revienne encore avec, disons, son plaidoyer. Jean-Claude Wemba, finalement, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que c'est à la justice ou c'est déjà clos, comme le dit Aubin Minaku?
Mais tout d'abord, je dénonce parce que je ne peux pas accepter, parce que je suis au téléphone à partir de Boma, que Radio Okapi puisse me laisser pendant 15 minutes sans rien dire. Parce que d'autres ont essayé quand même de développer leur thème.
Vous perdez déjà du temps, vous perdez déjà du temps.
Non. Je voudrais tout simplement vous dire à l'heure actuelle que c'est un problème. Un problème politique tout simplement pour moi, parce que les assassins présumés de Laurent Désiré Kabila, comme venait de le dire, parce que je suis même étonné que l'honorable Minaku puisse nier le livre de l'ancien ministre de l'Intérieur, moi je comprends qui confirme qu'il a été avec Edi Kapende le jour de l'assassinat. Donc alors en ce moment-là, nous nous posons la question, nous savons tous, il ne faudrait pas nous le... Tous les Congolais et les Congolais sachent qu'à cette époque, la justice ne devait que rendre seule. Mais nous nous disons ceci, quand je passe, que ce soit à Nono Lukula, à Georges Lutin, que ce soit à Edi Kapende, que je suis parti voir plusieurs... En prison, je me dis tout simplement, maintenant que les nouvelles institutions, parce que c'était ça votre question, est-ce que les institutions actuelles sont fiables? Les institutions actuelles devraient être fiables dès lors qu'on aurait pu faire la réforme sur le Conseil supérieur de la magistrature. Or, cette structure qui sera indépendante n'est pas encore née. Parce qu'à l'heure actuelle, renvoyer ces gens-là devant la justice actuelle, bon, vous savez, moi je le dis toujours, c'est une justice corrompue, une justice. Tu peux, mais je suis corrompu jusqu'à à la vie. Reviendra toujours sur ce verdict, que le peuple congolais d'ailleurs s'est moqué de ce verdict en disant voilà les lampistes qui veulent payer pour des gens qui ont tué le président Laurent Désiré Kabila. Je crois qu'en un mot, je dirais ceci, je suis tout à fait d'accord avec notre et quand il dit qu'il faudrait rouvrir ce procès. Mais je suis d'accord aussi avec le président de Sans-Voix qui dit qu'à l'époque, rien ne pouvait faire à part ce qu'il est vraiment connu aujourd'hui. Et ensuite, Maître Joseph Montigny, le conseiller du président Étienne Tshisekedi, disait, quand la politique que nous entrons dans l'ère des institutions politiques, mais il faudrait que la justice vive. Or, la justice de ce pays, n'est pas à l'état où tout Congolais ou tout Congolais peut lui faire confiance. C'est pour cela que je dis tout simplement qu'il faudrait qu'il puisse y avoir une réouverture de ce procès le moment venu avec les nouvelles institutions judiciaires qui pourraient apaiser les Congolais et les Congolaises. Comme c'est un problème politique, nous disons ceci. À chaque crise politique, la solution elle est politique. Ces gens-là ont été amnistiés par le président de la République. Mais d'ailleurs, vous l'avez dit, le président de la République a fait ce qu'il pouvait faire en signant les décrets avec les gouvernements associés.
Oui, Jean-Claude Bamba, merci, mais je vais vous demander quand même de retirer. Vous avez parlé d'une justice qui pue. Ça, c'est quand même un terme que je vous demanderai quand même de retirer.
Enfin, je le retire, ouais. Mais je le retire en tout cas, mais je n'en pense pas moi.
Ouais. Merci beaucoup. il ne reste plus beaucoup de temps, juste quelques secondes, Maître Elie. Donc, on peut dire que vous comptez maintenant sur le Conseil supérieur de la magistrature. C'est en quelques secondes, parce qu'il ne reste qu'une minute pour le terminer.
Vous savez,
en quelques secondes,
oui, vous tout ce que nous pouvons dire, les rapports d'audit de l'Union européenne, les rapports de l'ONG des droits de l'homme, et même les Congolais, que nous représentons, nous qui sommes les avocats de la justice et des procès de droits humains, ne croient plus à cette justice. Donc, nous voulons l'indépendance de la magistrature. Et d'ailleurs, Joseph Kabila a eu à peine des aveux aux gens du PPRD qui ont voulu faire de lui être le président du Conseil supérieur de la magistrature. Ça, c'est une évolution positive du chef de l'État que nous félicitons.
Merci. En quelques secondes aussi, Aubert.
Moi, je crois qu'il y a trop d'amalgame. Hein. Refonder la justice congolaise, c'est une nécessité, parce que la crise congolaise est structurelle, non seulement dans les domaines judiciaires, mais un peu partout ailleurs. Les politiciens, nous aimons bien dire que la justice est corrompue, mais les politiques sont aussi suffisamment corrompus dans ces pays.
Merci, Aubert Milakou. Nous nous excusons auprès de nos auditeurs. Il y a eu beaucoup, beaucoup de réactions, mais nous savons les passer toutes. C'est par ici que nous mettons fin à ce dialogue entre Congolais, mission réalisée par Kevin Couté. Jean-Claude Sala était à la mise en onde, Denis Diboko à la préparation. Merci à tous de nous avoir suivis.